Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Oponde.
Agitation entre communautés à Lubumbashi. Les députés nationaux élus de cette ville ont échangé hier sur cette problématique avec le président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de rupture des stocks des produits pétroliers en RDC, mais il faut plutôt changer des habitudes dans la consommation de ce produit pour prévenir les conséquences de la guerre en Ukraine. Déclaration du ministre des Hydrocarbures hier mercredi à Kinshasa. Publication le 8 mai prochain des résultats de l'ADV Loterie. Nous en parlons avec notre invitée, Madame Mara Bird, vice-consul à l'ambassade des États-Unis en RDC. Bonjour à tous. Sachez tout d'abord que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu à Nairobi ce jeudi. Pendant son séjour, il est prévu un tête-à-tête entre les deux présidents. La signature du traité d'adhésion de la RDC dans la communauté économique de l'Afrique de l'Est, qui sera fait devant le président en exercice de cette organisation, Uhuru Kenyatta, chef de l'État kenyan. Vendredi 8 avril, la délégation congolaise par le billet du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Agriculture et celui de la Pêche et l'Élevage vont signer un accord de coopération dans les secteurs agricoles entre Nairobi et Kinshasa. Un sommet quadripatrite RDC, Kenya, Ouganda, Rwanda se tiendra le samedi à huis clos et sera sanctionné par un communiqué conjoint. Je l'ai dit dans les titres, la situation qui prévaut dans le Katanga était au menu d'une rencontre hier mercredi à Kinshasa entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, et les députés élus de la ville de Lubumbashi. Au cours de cet échange, les élus de Lubumbashi ont exprimé au président de la Chambre basse du Parlement leur inquiétude sur la cohabitation difficile entre l'ensemble des populations venues d'ailleurs, qui risque de les dépasser au niveau du Katanga et surtout à Lubumbashi. Pour ce faire, Christophe Mboso a suggéré la mise en place d'une mission pour circonscrire le problème qui se passe dans cette partie du pays et voir ce qui doit être fait. Pour le président de la communauté katangaise à Kinshasa, il faut anticiper sur ce phénomène qui risque de coûter cher à la République. Les députés Célestin Bouyou est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes venus ensemble pour passer en revue avec le président de l'Assemblée et voir comment nous pouvons mettre fin à la situation qui risque de nous dépasser au niveau du Katanga, surtout au niveau de Lubumbashi, où nous avons un ensemble de toutes les populations qui viennent d'ailleurs, qui risquent d'être créées déjà comme Kinshasa, ici vous avez les autochtones, et qui sont envahis par les uns et les autres, et qui ne peuvent plus vivre ensemble parce qu'ils ne s'entendent pas. Alors, comme il y a des élus, nous en avons 15, des élus de Lubumbashi, le président a demandé qu'il y ait une mission pour qu'on aille voir et les autorités, les partis politiques et les leaders, ainsi que les concernés même, que ce soit les Wewa, que ce soit l'ensemble des communautés qui vivent ensemble, pour voir d'abord épingler les problèmes qui se passent et finalement savoir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Nous lançons seulement le message de paix, mais nous ne devons pas, nous déjà, commencer à anticiper sur les phénomènes qui risquent de nous coûter très cher.
Au sud Kivu, la MONUSCO a lancé le mardi à Minembwe le projet de réduction des violences communautaires. Plus de 200 personnes recrutées dans différentes communautés tribales réhabilitent les routes de dessertes agricoles par la méthode de haute intensité de la main-d'œuvre IMO. Objectif, favoriser la cohabitation pacifique et permettre la libre circulation de personnes et leurs biens dans la zone. Emmanuel Elamejo Akabeti.
Le projet de réduction des violences communautaires lancé par DDR de la MONUSCO dans le territoire de Fizi vise la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Le premier axe entre Minembwe et Mikenge, long de 27 km, et celui entre Minembwe et Point Zéro vers Fizi Centre, long de 20 km. 200 membres de toutes les communautés tribales locales sont recrutés pour exécuter ce travail pendant 3 mois. Ils sont dotés de matériel de haute intensité de la main-d'œuvre IMO. Ainsi, le Banyamulenge, les Bafuliru, les Babembe, les Banyindou et autres peuvent se parler, passer des moments ensemble et créer un environnement de paix. À travers ce projet, la MONUSCO vise également faciliter le déploiement des forces de sécurité et des casques bleus dans la zone pour la sécurisation, mais surtout faciliter les échanges commerciaux dans cette zone qui est restée longtemps enclavée. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Vous le savez certainement, la stratégie nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a été validée et adoptée le lundi. Le programme entre donc dans sa phase opérationnelle. Dans ce journal, nous nous intéressons aux enjeux de ce programme dans une province comme le Sud Kivu, marquée par des conflits armés cycliques et la persistance des seigneurs de guerre. Le point avec Cynthia Bachizi.
Les enjeux au Sud Kivu sont principalement de deux ordres, d'après Augustin Taintunda. C'est un expert dans les questions de paix et sécurité qui a participé aux travaux pour l'élaboration de cette stratégie. Primo, il faudra développer une intelligence pour dénicher les tireurs de ficelles qui appuient les groupes armés. Il est donc capital de mettre à contribution la population locale, les leaders d'opinion ainsi que toutes les parties prenantes pour mettre fin à l'action nocive de ces tireurs de ficelles. Ensuite, 80% des groupes armés au Sud Kivu sont concentrés autour des sites miniers, souligne Augustin Taintunda. Cela sous-entend qu'il y a des aspects économiques qui constituent le principal mobile des groupes armés. C'est une particularité dont il faudra tenir compte dans l'opérationnalisation du programme au Sud Kivu. La validation de cette stratégie marque donc un grand pas. Il faudra maintenant que les plans opérationnels soient définis et ensuite procéder à la nomination des animateurs provinciaux, notamment dans le Sud Kivu. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Plus d'1,4 million de femmes et enfants sont affectés par les conflits armés en Ituri. Ces statistiques sont contenues dans un rapport publié hier mercredi à Bunia par le bureau de l'UNICEF dans cette province à l'occasion de la visite de la directrice exécutive de cette agence des Nations Unies. Pour y faire face et aider les autorités à relever ces défis, l'UNICEF intervient dans plusieurs secteurs pour améliorer les conditions des enfants et d'autres personnes vulnérables, des déplacés des guerres. Il s'agit notamment de la construction de plus de 30 écoles et de l'enseignement à distance en faveur d'environ 100 000 enfants. Isaac Raymond.
Selon les rapports du bureau de l'UNICEF à Ituri, 2,8 millions de déplacés à Ituri souffrent de malnutrition. Parmi eux, plus de 100 000 enfants de moins de 5 ans qui sont atteints de malnutrition sévère et aiguë. Pour atténuer la souffrance de ces personnes vulnérables, en 2021, l'UNICEF a construit ou réhabilité des infrastructures sanitaires, notamment dans certains sites des déplacés, ce qui a permis la prise en charge médicale de plus de 71 000 déplacés. Plus de 16 000 enfants malnutris ont été soignés dans 15 zones de santé précises les rapports du Fonds des Nations Unies pour la France. L'UNICEF a également construit en 4 sources d'eau, 120 latrines et 61 stations de lavage des mains pour la prévention des maladies d'origine hydrique. Toujours en 2021, mais dans les domaines de l'éducation cette fois, plus de 130 000 enfants et adolescents ont eu accès à l'éducation formelle grâce à la construction d'infrastructures scolaires. D'autres enfants estimés en 90 000 ont bénéficié de l'enseignement à distance à travers 8 radios communautaires. Cependant, les bureaux de l'UNICEF à Ituri précisent que les moyens demeurent insignifiants par rapport aux multiples besoins humanitaires dans la zone. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Il n'y a pas de rupture des stocks de produits pétroliers en RDC, mais il faut plutôt changer des habitudes dans la consommation de ce produit pour prévenir les conséquences de la guerre en Ukraine. Déclaration du ministre des Hydrocarbures hier mercredi ici à Kinshasa. Didier Boudimbou s'exprimait ainsi lors de la conférence de presse animée par Patrick Mouyaya, ministre des Communications et Médias, porte-parole du gouvernement, conjointement avec Nicolas Kazadi des Finances. Didier Boudimbou est au micro de Paul Matindo.
Le seul souci, comme je le dis, nous devons changer maintenant notre façon de vivre. Il ne faut pas que les gens se ramènent avec des bidons pour prendre 1000 litres, 500 litres, non. Ça, on ne va pas accepter ça. Il faut que les gens puissent se servir d'une façon assez modérée, de façon qu'on ne retombe pas dans ce qui s'est passé ce dimanche. Bon, il y a un bateau qui est arrivé de 25 000 tonnes métriques, qui est au niveau de Mwanda, qui a déjà déchargé. À Mwanda, le produit se trouve à Angoango, et je pense que cette nuit, ça sera déjà pompé via des pipelines jusqu'à Kinshasa. Il y a un autre bateau de 17 000 tonnes métriques qui arrive dans les deux jours. Donc je pense qu'en termes de stock, on n'aura pas de soucis. Mais c'est plutôt en termes, nous devons être prudents par rapport au stock que nous avons. Parce que demain, on ne sait pas ce qui va arriver sur le plan international. Donc quand on a du stock, on doit quand même bien le gérer. Mais entre-temps, on ne va pas s'arrêter à ça parce qu'après, il y aura encore d'autres commandes, il y aura d'autres cargaisons qui vont venir. Donc on est en train de travailler pour qu'il n'y ait pas manque de stock. Jusque-là, je pense qu'on est dans le bon. Mais comme je le redis encore, il faudra vraiment qu'on puisse changer nos habitudes. Il ne faudra pas que les gens viennent remplir leur véhicule en ayant peur qu'il y ait rupture de stock.
Plus de 10 organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs des ressources forestières exigent des poursuites judiciaires et administratives à l'endroit des responsables indexés dans le dernier rapport de l'IGF sur les allocations et cessions des concessions forestières. C'est ce qui ressort d'un débat organisé hier mercredi à Kinshasa par les Centres pour l'action sociale CEPAS en rapport avec le bradage des concessions forestières, le paiement des droits et taxes et redevances. Ces organisations exigent l'annulation immédiate des titres incriminés, les recouvrements forcés avec pénalité des taxes dues à l'État congolais. Écoutez à ces sujets Augustin Poy, membre de l'organisation environnementale CODELT, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Il faut tirer les conséquences des termes même du rapport. Il y a des concessions mal attribuées qui n'ont pas respecté des conditions impératives qui sont énoncées pour protéger le bien commun. Maintenant, il faut y aller peut-être cas par cas pour essayer d'examiner chacune de ces concessions. S'il y a des facteurs qui peuvent militer en faveur du maintien ou non de telle ou telle autre concession. Il faut tirer les conséquences. Le fait de brader les ressources naturelles du pays au mépris des intérêts des générations, c'est un crime de haute trahison, surtout quand la personne est porteur d'une parcelle d'autorité publique. Nous espérons que toutes ces personnes seront déférées devant la justice et répondent de leurs actes. Et que les titres mal attribués soient carrément retirés, ce qui n'a pas été payé à l'État, aux provinces, le soit. Et que pour l'avenir, tout le monde soit informé que plus jamais les choses ne se passeront comme avant. En ce qui concerne tout le désordre au niveau du ministère de l'Environnement, nous appartenait de pouvoir proclamer très hautement notre soutien à ce rapport de l'IGF sur les concessions forestières.
Lancement hier mercredi à Mbandaka du projet environnemental Child RDC. Il concerne la gestion à base communautaire des terres et forêts dans les paysages du Grand Kivu et des lacs Teletumba à l'Équateur et au Maindombe. Les objectifs du projet ont été exposés aux parties prenantes, dont les acteurs étatiques et non étatiques, au cours d'un atelier de 2 jours. Ce, afin de comprendre et de s'approprier ce projet sur financement du Fonds pour l'environnement mondial fixé à 13 millions dollars pour une période de 5 ans. Le point avec Paul Richard Malengela.
La province de l'Équateur dans l'ouest de la RDC renferme une variété de lacs et rivières, des marécages et terres humides, des tourbières et autres ressources qui jouent un rôle essentiel dans le climat et l'hydrologie planétaire. Ainsi, le projet vise à étendre la gestion de ces ressources aux communautés locales, notamment dans les territoires de Bikoro, Lukolela ainsi que celui de Kir dans le Maindombe. Pour le directeur du projet Jean Ilunga Muneng, ces communautés sont appelées entre autres à la conservation des forêts et à l'utilisation durable des terres, suivant le plan intégré de l'aménagement du territoire, mais aussi à assurer la conservation de la biodiversité et la séquestration du carbone. En contrepartie, le projet prévoit des activités alternatives, a expliqué Jean Ilunga.
Tout travail mérite salaire. Le paiement des services environnementaux, ce sont des paiements de certaines incitations aux communautés pour les encourager à conserver. Par exemple, l'achat d'un moulin, le métayage, on fournit du petit bétail aux communautés, c'est visible.
Le ministre provincial de l'Environnement Équateur s'est réjoui des opportunités qu'il offre pour le développement de sa province, d'où l'engagement de son gouvernement à sensibiliser la population à son approprié Adi Papi Ekate.
Nous allons nous sensibiliser cette population riveraine pour qu'ensemble ils puissent comprendre l'importance de ces projets, non seulement pour eux, mais aussi pour l'humanité tout entière.
Notons que le projet Child en RDC a prévu des mécanismes de gestion et de suivi technique et financier partagés aux parties prenantes lors de l'atelier de lancement. Bandaka, Paul Richard Malengue, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, l'ex-président Roch Marc Christian Kabore libéré, l'ancien président burkinabé a pu regagner son domicile hier mercredi. Il était placé en résidence surveillée depuis le 24 janvier dernier, date du coup d'état militaire qu'il a renversé du pouvoir. Dans un communiqué diffusé hier soir, le gouvernement burkinabé précise que cette décision intervient après des concertations entamées il y a un peu plus de 3 semaines avec l'ancien président du Faso.
L'invité.
Si vous avez joué à la loterie américaine, sachez que les résultats seront publiés le 8 mai prochain. Madame Mara Bird, vice-consul de l'ambassade des États-Unis en RDC, qui est l'invité de ce journal, donne tous les renseignements qui vous permettra de vous retrouver un jour aux États-Unis si vous gagnez à la DV. Elle s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Madame Mara Bird, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les démarches à entreprendre après avoir gagné la DV Loterie?
Après d'avoir gagné, vous devrez alister votre dossier avec les documents civils, votre formulaire DS-260, et vous devrez prendre les rendez-vous à l'ambassade et vous devrez faire tout de suite parce que la DV Loterie, c'est un cycle annuel. Et que ça termine en septembre. Et aussi, cet numéro a une quantité limitée de visas. Donc, quand les visas se sont donnés, il n'y a pas encore de visas pour cette année. Donc, si vous le faites avant, vous avez plus de possibilités d'avoir le visa.
Dites-nous, Madame Bird, peut-on perdre cette opportunité si on ne se présente pas à l'ambassade?
Bien sûr. Être sélectionné ne savait pas dire que vous êtes gagné. C'est seulement que vous avez l'opportunité de vous présenter à l'ambassade. Donc, vous devrez vous préparer pour faire cela.
C'est après combien de temps que les États-Unis sont en droit d'annuler une DV gagnée si les concernés ne se présentent pas au rendez-vous à l'ambassade?
Le cycle de la loterie termine le 30 septembre chaque année. Donc, avant le 30 septembre, les résultats pour les nouveaux cycles se sont disponibles le 8 mai de cette année pour les 2023. Le 8 mai, vous pouvez aller au site pour regarder si vous avez gagné ou non. Tout de suite après cela, vous pouvez commencer d'organiser vos documents.
Quelles sont les formalités à remplir pour voyager?
Vous devrez enlever votre diplôme d'État, votre document civil, et vous devrez remplir le formulaire DS-260. On doit payer pour l'entretien dans l'ambassade. Et les rendez-vous, ce sont chaque mois spécifiques. Ma collègue Clémence, elle parle en plus de ça.
Je peux ajouter sur ce que Madame Mara a dit. Lorsque vous gagnez à la DV Loterie, chaque candidat doit vérifier les résultats sur notre site dvprogramme.state.gov. C'est à ce moment-là, avec votre numéro de confirmation, que vous saurez que vous êtes sélectionné pour la DV Loterie et que vous avez plutôt gagné. Alors, une fois que vous avez gagné, vous devez remplir le formulaire qu'on appelle DS-260. C'est le formulaire des demandes de visa que chaque gagnant doit remplir pour faire sa demande. Et après le formulaire, vous devez vous rassurer que vous avez une photo prise dans les 6 derniers mois, une photo récente. Ce qui est aussi exigé à tout le monde, c'est de pouvoir avoir un niveau d'instruction minimum équivalent à notre diplôme d'État de notre pays, ou soit une expérience professionnelle qui exige une formation de minimum 10 ans.
Nous avons appris par nos sources qu'il y a beaucoup de gagnants, mais qui ne se présentent pas à l'ambassade. Qu'est-ce qui va se passer après?
S'ils ne se présentent pas, ils n'ont pas le visa, ils ne peuvent pas se déménager.
Madame, est-ce que l'ambassade des États-Unis ne peut pas faciliter la tâche aux Congolais? Nous savons que c'est tout un problème pour certains d'accéder à l'Internet. Peut-être qu'ils ont gagné, mais qu'ils ne sont pas au courant qu'ils ont gagné. Est-ce que l'ambassade ne peut pas publier une liste qui pourra faciliter tous les requérants qui ont gagné, mais qui ne se sont pas encore présentés à l'ambassade?
Tous les gagnants de la DV Loterie doivent savoir que l'ambassade n'a pas de responsabilité lorsque vous jouez à la DV Loterie. Vous êtes le seul à jouer et le seul moyen de pouvoir savoir que vous avez gagné, c'est d'aller dans notre site. Nous disposons d'un site où tout le monde doit aller vérifier si j'ai gagné ou pas. L'ambassade ne publie pas de liste. L'ambassade n'envoie pas de mail pour dire à la personne que vous avez gagné. Si vous recevez un mail qui vous dit que vous avez gagné et que vous devez payer, cela ne provient pas de l'ambassade. Ce qu'il faudra faire, aller sur notre site de dvprogramme.state.gov et avec votre numéro de confirmation, vous pouvez voir que vous avez gagné ou pas. Alors faites attention lorsque vous jouez, ne donnez pas votre numéro de confirmation à quelqu'un. Si vous vous faites aider par quelqu'un, laissez cette personne à la fin de vous donner votre numéro de confirmation parce que grâce à ce numéro que vous pouvez savoir que vous avez gagné ou pas.
Qu'est-ce qui est arrivé aux requérants qui ont gagné, dont les démarches n'ont pas été autorisées à cause de la COVID-19? Les autorités américaines ont-elles finalement donné le feu vert pour que les gagnants entament les démarches, oui ou non?
Le processus est dans la cour. Nous sommes à l'attente de la réponse. Aussitôt qu'il y avait des nouvelles, nous les implémenterons. Ça, c'est notre travail.
Madame Mara Bird, merci beaucoup.
À vous aussi.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.